Alors, je ne sais pas pourquoi l'évangile est découpé de cette manière-là, mais il y a le verset qui suit, le verset 38, qui, moi, me touche beaucoup, en tout cas, cette figure de Pilate, cette espèce de chercheur de Dieu, en quelque sorte, comme on en croise souvent dans l'évangile. Cet homme un peu perturbé, qui a des responsabilités, puis qui est à la fois bouleversé par cette personne du Christ. Il va poser cette question juste dans les versets qui suivent. Qu'est-ce que la vérité ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, on entend ça au moment de la Passion, quelques jours avant Pâques, et il pose cette question à Jésus, il lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la réponse de Jésus. Jésus, en fait, ne répond pas. Ou plutôt, il va répondre en restant silencieux. Et à travers son regard, Pilate doit être profondément bouleversé, parce que nous savons tous, et nous avons cette réponse, que c'est Jésus qui est la vérité. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas un projet politique, c'est la personne du Christ, il est la vérité. Donc Pilate, il pose des questions, et dans cet évangile, dans cette péricope, ce chapitre 18, il pose deux fois la même question. Je ne sais pas si vous avez remarqué. D'abord, il demande à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et puis, comme il n'a pas bien saisi, ou en tout cas, il veut approfondir le sujet, il repose la question à Jésus. « Alors, tu es roi ?» Et donc, nous fêtons ensemble avec l'Église le Christ roi de l'univers. Et nous avons, nous, la réponse. Mais il convient peut-être de bien préciser quelle est la nature de cette royauté. Puisque, normalement, j'espère que vous dites régulièrement la prière du Notre Père, avec cette phrase du Notre Père, que ton règne vienne. Alors il est toujours difficile pour nous de comprendre la royauté avec cette image qui a marqué notre histoire des rois de France, qui sont de pâles figures à côté de ce roi de l'univers. Peut-être aussi avez-vous à l'esprit ces photographies et ces couvertures de ces journaux que l'on peut feuilleter chez le coiffeur, ou en attendant notre généraliste, Gala, Voici, Paris Match, Point de vue, Image du monde, à moins, et j'en serais désolé, que vous soyez abonné. Pour bien comprendre la royauté du Christ, il nous faut regarder, bien sûr, du côté de l'histoire du peuple juif. En Égypte, d'abord, la figure du pharaon, roi par excellence, sorte de dieu visible, agissant sur terre au milieu de son peuple. Et le principe de l'Égypte, c'est de maintenir cette figure presque quasi divine qui, même jusque dans les rites funéraires, manifeste cette divinité. Il y a aussi Babylone avec ce roi, un homme quasiment déifié, qui fait le lien entre le monde de Dieu d'abord et le monde des hommes ensuite. Peut-être que Israël, le peuple de Dieu, est profondément marqué par ses royautés terrestres en Égypte ou à Babylone. Comme nous, nous pouvons être marqués par ces rois qui ont ponctué notre histoire de France. Mais on ne peut pas comprendre la royauté du Christ avec ses figures, puisque le roi, dans l'Écriture et dans l'Ancien Testament, c'est celui qui a reçu l'onction. C'est celui qui est intronisé par un rite. Le roi, c'est le premier exécutant d'une parole qui n'est pas la sienne, qui est la parole de Dieu. Et David est la figure royale par excellence de l'Ancien Testament. En tout cas, quand il est fidèle à la volonté de Dieu, il est un homme, je cite le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, un homme selon le cœur de Dieu. Et donc le roi dans l'Écriture ne peut que prospérer qu'en apportant cette prospérité à son peuple, la paix, le salut, la justice. Et donc le roi en Israël n'est pas à comprendre à la lumière de Babylone ou de l'Égypte. Il n'est pas d'abord un représentant de Dieu auprès de son peuple, mais plutôt un représentant du peuple dont il est issu auprès de Dieu. Il a une dimension claire, sacerdotale, de celui qui permet au peuple de se tourner vers Dieu. Et donc les prophètes vont encadrer en quelque sorte les figures royales pour manifester qu'il n'est pas Dieu sur terre, mais qu'il est un homme qui permet de se tourner vers Dieu. La fidélité à Dieu de son roi permettra à Israël d'être fidèle à son Dieu. Malheureusement, dans l'histoire d'Israël, quand on regarde toute l'histoire, en fait, le temps de la royauté est un temps très très court. On connaît David, on connaît Salomon, mais il y aura très peu de rois. Mais ça va marquer l'histoire d'Israël. Et donc, durant l'exil, à Babylone précisément, Israël rêve d'un espèce de retour à la royauté, d'un Messie qui va le libérer de ce joug. Mais finalement, dans l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu va devoir se soumettre à des rois païens qui vont lui laisser plus ou moins son autonomie. Alors il y a toujours ce désir, cette attente d'un roi qui va pouvoir régner finalement. Et ce roi, nous le connaissons, on n'a plus besoin de l'attendre, c'est Jésus. Non pas un roi qui rayonne de par sa gloire personnelle, mais un roi d'humilité, un roi qui se dépouille de toutes ces résonances politiques, un roi qui se démarque de la figure d'Hérode, autorité romaine, un roi aussi, vous aurez remarqué, qui fuit les foules. Sauf à un moment, il y a un moment où Jésus se laisse acclamer par la foule, c'est le moment des rameaux. Et donc cette royauté est à comprendre à la lumière de la Semaine Sainte, de ce geste étonnant du lavement des pieds et de la croix. Ce Christ qui va nourrir ses foules, qui va nourrir ses disciples, aux antipodes du schéma classique de la royauté. Alors ensemble, ce dimanche, nous voulons vraiment ajuster notre regard sur le Christ qui est notre roi. Non pas un roi d'apparat, d'apparence, mais un roi véritable qui est roi pour nous. Il n'est pas roi pour lui, il est roi pour nous. Et tout à l'heure, je chanterai, je ne sais pas si vous êtes attentifs, à la préface. Vous savez, ce que l'on chante, le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit, etc. Et là, vous avez toujours un très beau texte qui fait le lien entre la parole de Dieu et l'Écriture. Et là, il est décrit, j'essaierai de ne pas faire de fausses notes, tout à l'heure, en chantant cette préface où est décrit ce règne de Dieu, un règne de vérité, un règne de justice, de paix, d'amour. Voilà, c'est ce règne que nous voulons connaître, nous voulons vivre. Alors, entrons dans ce règne de Dieu. Le pape Benoît XVI, dans une homélie sur cette fête du Christ-Roi, attire notre attention sur un des personnages au moment de la Passion et sur cette figure. Moi, j'aime beaucoup la figure de Pilate, j'évoquais tout à l'heure, mais la figure du bon larron. Hein, vous savez que le pape François dit « Le premier canonisé, c'était un malfaiteur. » Le premier canonisé, c'est le bon larron. Et ce bon larron, dit le pape Benoît XVI, il va croire à ce qui est écrit sur cette inscription qui est mise au-dessus de la tête de Jésus, le roi des Juifs. Le pape Benoît XVI dit, il y croit, ce bon larron, et il se confie. Il est certes sur la croix comme Jésus, mais, dit le pape Benoît XVI, il est surtout sur la croix avec Jésus. Voilà, notre roi ne nous regarde pas avec distance, avec mépris, il ne se cache pas, il est présent à nos côtés, il est présent à nos côtés dans les moments heureux comme dans les moments douloureux. Il est le vrai roi, nous voulons l'acclamer, l'accueillir, qu'il vienne et qu'il règne dans nos cœurs. Amen.